Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, que le Seigneur nous bénisse à travers la méditation que nous nous proposons de faire ce matin. C'est dans le livre du Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome, au chapitre 12 et au verset 29, nous allons faire cette lecture qui nous introduit dans ce partage. Deutéronome, chapitre 12, verset 29. Verset 29. Voilà. Chapitre 12, verset 29, Deutéronome. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à Dieu, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras point, tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. » Et la main de tout le peuple ensuite, tu le lapideras, il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras. Tu interrogeras avec soin, la chose est-elle vraie, le fait est-il établi. Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin du milieu de la place, et tu brûleras entièrement la ville, au feu la ville, avec tout son butin devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères.
si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole qui ouvre pour nous une réflexion sur notre fidélité. Voilà, notre fidélité à notre Dieu, à celui qui est venu nous sauver. Et nous avons là, à travers ce texte que nous avons lu, quatre manières par lesquelles notre adversaire, l'adversaire de nos âmes, l'adversaire de Dieu et le nôtre en même temps, c'est-à-dire le diable, peut neutraliser les enfants de Dieu, neutraliser le peuple de Dieu. Vous avez remarqué, nous avons saisi dans ces premières lignes cette parole « Garde-toi de te laisser prendre au piège ». Les hommes n'ont pas tari d'imagination pour inventer des pièges pour saisir les animaux. On appelle des collets, enfin des filets, enfin toutes sortes de choses, hein, des pièges mécaniques, enfin toutes sortes de choses. Le mot piège est intéressant parce que il nous met en garde, et je crois que c'est important que nous prenions en considération cette pensée. Piège vient du latin pedica, et qui veut dire entrave aux pieds. La signification de ce mot pourrait être celle-ci: ce que l'on met aux esclaves ou aux prisonniers, probablement pour les empêcher de s'échapper ou de fuir. Il y a un deuxième mot qui est associé au mot piège, que nous trouvons dans la Bible, et à partir du chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est le mot ruse. Piège et ruse. L'apôtre Paul nous en parle quand il dit ceci dans Éphésiens chapitre 6, de nous tenir en garde contre les ruses du diable. Et le mot ruse, eh bien, a donné finalement cette pensée d'embûche, de filet, de tromperie. Et le premier guet-apens, on le sait, a commencé en Éden, puisqu'il y a eu une suggestion mauvaise qui est arrivée aux oreilles de nos premiers parents, où la proposition a été faite de cette manière: vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Avec, naturellement, eh bien là, une désobéissance que nous connaissons, et qui s'est toujours perpétuée d'ailleurs. L'enseignement de Dieu pour Israël, puisque nous saisissons ce texte dans l'Ancien Testament, s'inscrit dans la perspective de la conquête du pays de Canaan. Il y a là, naturellement, eh bien là, un ordre de Dieu de conquérir ce territoire. Et nous voyons que si Dieu chasse et extermine les nations cananéennes pour les remplacer par ses enfants, c'est-à-dire les Israélites, c'est parce que ces peuples païens, que sont les Cananéens, non seulement sont tombés complaisamment dans les pièges tendus par l'ennemi, parce que ce sont aussi des créatures de Dieu, et les Cananéens, eh bien là, se sont fourvoyés en écoutant finalement à travers, eh bien, leurs augures, leur culte, leur religion païenne, toutes sortes de choses. Mais non seulement ces nations vont être chassées par Israël, devant Israël, ils sont tombés dans les pièges, mais non seulement, le but de tout cela, c'était justement qu'ils servent l'ennemi et qu'ils l'adorent, parce que le but du diable, c'est d'amener la créature de Dieu à l'adorer lui, au lieu d'adorer le Créateur. Mais nous voyons que tout cela constitue un piège désormais pour Israël. En même temps, c'est aussi un piège. Canaan va être chassé, mais néanmoins il restera des vestiges, sur le terrain, dont il faudra qu'Israël se tienne en garde, danger dont il doit être formellement averti. Et je crois que nous-mêmes, dans notre temps, alors les temps sont passés depuis bien longtemps, hein, mais pour nous, en tous les cas, les choses restent et demeurent. Les pièges ne sont peut-être pas les mêmes, mais néanmoins, il y a quand même une constance derrière tout ça. Dieu dit donc aux Hébreux: « Lorsque tu les auras chassés et que tu seras établi, une fois que tu seras en place, une fois que tout ira bien pour toi, alors l'avertissement, c'est garde-toi. Garde-toi. Avertissement toujours d'actualité où l'Église est placée dans un monde tentateur et dangereux. Les choses n'ont pas changé, finalement. Dans la forme, beaucoup de choses ont changé, naturellement, mais dans le fond, ça reste toujours pareil, un danger moral et un danger spirituel, non seulement par l'esprit de mondanité qui existe autour de nous, qui est là, qui règne, mais par les pratiques courantes auxquelles les hommes se livrent naturellement, sans penser souvent qu'ils font mal, sans soupçonner que dans certaines choses qui sont pratiquées dans le monde,
Eh bien, finalement, les gens disent, ben, c'est normal, c'est naturel, on l'a toujours fait, alors pourquoi pas? Donc, c'est un appel aux chrétiens que nous sommes, dont la position, eh bien, n'est pas fermement consolidée en Dieu. Et ça, c'est un avertissement pour tous. Mais particulièrement pour ceux qui sont fragiles, pour ceux qui sont sensibles au chant des sirènes, de tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui se passe autour de nous. Jésus l'affirmera, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Parce que vous avez vu, hein, c'est clair dans notre texte, hein, c'est soit Dieu ou soit les idoles, soit les pratiques cananéennes, ou alors c'est simplement eh bien, l'engagement vis-à-vis du Seigneur. Si hier Dieu a condamné avec une grande sévérité les Cananéens, nous pouvons en tirer la conclusion que les Israélites, qui eh bien, commençaient à devenir apostats, c'est-à-dire qui commençaient à rejeter un peu leur Dieu et puis la vérité, eh bien, je crois que ne nous attendons pas à ce que Dieu nous donne son approbation, les yeux fermés, ou donne son approbation ou son assentiment, les yeux fermés, à une église toute empreinte de l'esprit du monde. Ça, je crois que on est clair par rapport à ça. Ce même esprit qui conduit toujours à l'adoration de celui qui en est le prince et le maître. Et vous savez que l'apôtre Paul ne ménage pas les appellations en ce qui concerne l'esprit méchant, l'esprit mauvais, quand il parle du prince de ce siècle, du prince de ce monde. Et nous croyons qu'à chaque fois que eh bien, les hommes, les enfants de Dieu sont entraînés, ce n'est pas pour adorer Dieu, mais c'est pour adorer finalement celui qui est contre Dieu. L'adversaire de Dieu est notre adversaire. Alors là est le piège. Là est toute la subtilité que nous allons détailler dans quelques instants. Tout innocente que puissent nous paraître certaines pratiques, certaines habitudes, qui finalement nous amènent tôt ou tard à adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Je le répète, on ne peut servir Dieu et Mammon, ou Dieu et puis l'adversaire. J'ai fait une petite étude sur le mot piège. 37 fois dans la Bible, le mot est cité. Donc, c'est quand même pas pour rien. Alors, le mot piège seulement, hein, mais si vous prenez ses dérivés, alors là, il y en a beaucoup plus. Hein. C'est simplement le mot piège. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de ces avertissements. Le premier point, c'est le verset 30 que nous allons relire quand il est dit ceci. « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi, et d'ajouter ceci, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. » C'est là que se trouve le danger. Information et imitation. Premier guet-apens. Et cela s'adresse particulièrement à nos oreilles et à notre curiosité. Est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, sont curieux? Il y en a qui le sont, et il y en a qui ne le sont pas. Non, mais c'est vrai, c'est comme partout. Hein. Il y en a qui aiment bien regarder un petit peu là tout autour et puis savoir un peu ce qui se passe. Alors, c'est peut-être pour ceux qui sont curieux, qui sont toujours un petit peu démangés de savoir, de connaître ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il y a un proverbe populaire qui nous dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Là, elle est en train de reverdir, hein, l'herbe. Je peux vous le dire avec ce qui tombe. C'est bien. Hein. Que Dieu fasse reverdir l'herbe qui est dans notre champ à nous. L'Israélite avait reçu l'ordre sévère de ne pas même chercher à savoir ce qui se passait autour de lui. Enfin, relativement, je veux dire. Le comment, l'explication, la manière de faire des Cananéens. C'était pas de se mettre dans une bulle et de dire, eh bien, nous sommes véritablement le peuple de Dieu, on a fermé les portes et les fenêtres, et puis nous sommes dans un monde formidable. Non, c'est pas ça. Mais de savoir ce que faisaient avant eux les Cananéens. La recherche un peu de l'histoire, la recherche un peu de ce qui s'était passé auparavant. Et ça peut être une curiosité qui est profondément mauvaise. On appellerait ça aujourd'hui la culture des peuples. Ça paraît anodin. On se dit, bah, finalement, il n'y a rien de mal. Oui, mais attendez. Il n'y a rien de mal de connaître, c'est vrai, certaines choses qui sont indifférentes à notre vie. Mais en ce qui concerne
les manières d'adorer, les manières de prier, les cultes occultes. Et puis toutes ces choses bizarres, oïdes,
alors peut-être que là, il faut faire attention.
Dans notre monde d'aujourd'hui, où l'info et l'intox, que c'est bien cela, pleuvent sur notre quotidien, je dirais même que c'est un bombardement, hein, et ça tombe autour de nous, il faut bien reconnaître que le chrétien doit manifester, et c'est, je dis que c'est quasiment obligatoire si nous voulons tenir le coup, que nous devons manifester un esprit de critique pointu par rapport à tout ce qui se passe, et je pense dans le monde spirituel, dans le monde religieux, dans toutes ces mouvances qui viennent de l'Orient, de l'Occident, vous voyez, du Nord ou du Midi, à travers ces pratiques, ces mélanges, toutes sortes de choses, et de dire, ben, finalement, ils sont bien comme nous, ils adorent Dieu comme nous, il n'y a pas de différence, c'est formidable tout cela. Alors d'avoir peut-être un désir qui naît dans notre cœur de rentrer dans une nouvelle spiritualité, dans une nouvelle dimension de ressenti ou de communion avec Dieu, et ne pas tout avaler. Ouais, ne pas tout avaler. Pour faire ses choix, savoir, frères et sœurs, trier, accepter le bon et rejeter ce qui est mauvais. Dans la soupe, excusez-moi, hein, j'ai des expressions, dans la soupe télévisuelle, littéraire et autres médias, si nous nous laissons aller passivement à toute sollicitation, un désir de vivre, un désir de voir, un désir d'écouter, il y a de fortes chances d'être vite imbibé. Vous voyez, comme un coton que vous trempez dans l'eau, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein. Imbibé, et imbibé malgré nous, parce que ça c'est une question d'esprit, au point d'en oublier notre promesse chrétienne et d'en oublier ce que nous dit le Seigneur. D'ailleurs, Jean le rappelle, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et nous luttons tous les jours contre ça. Alors, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un de supra-spirituel, j'ai pas dit super, supra, ultra, mais nous luttons contre ça. Et tant que nous luttons, nous sommes sur la bonne voie, parce que nous réagissons. À partir du moment où nous ne luttons plus, alors là, nous sommes véritablement en danger. Le but avoué de l'esprit du monde, et vous savez ce qu'il y a derrière l'esprit du monde, c'est d'atténuer la gravité du péché, de dire, oh, vous savez, c'est plus grave. Dans le temps, on pensait que c'est grave, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. D'élucorer l'état originel de perdition des hommes, de penser que finalement, eh bien, nous irons tous au paradis. Quelle que soit notre option religieuse, nos choix, convertis ou pas convertis, de toute façon, il y a de la place, hein, il est grand le ciel. De nier l'évangile qui annonce un sauveur par l'expiation des péchés et, finalement, d'en arriver à dire « Oh, ben, vous savez, la réincarnation, ça vaut bien la résurrection. » C'est ce que j'ai entendu cette semaine. Alors, je crois que faisons attention à ce que nous entendons. Et faisons attention à notre curiosité. Chaque jour, un poison mortel se distille derrière des mots, derrière des modes, derrière des rythmes, je parle de la musique, hein, derrière des goûts, derrière des plats du jour et des menus qui nous sont fournis à profusion, des comportements, des façons de vivre et d'être qui font l'affaire à notre insu sans que nous nous en apercevions, qui font l'affaire d'esprits malins et séducteurs dont ensuite il est difficile de se débarrasser lorsque nous en sommes tout imprégnés. Alors c'est vrai que c'est un sujet de perplexité pour nous qui sommes parents et qui avons des enfants, des adolescents. Parce que nos enfants, ils sont dans le monde, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Le collège, le lycée, etc., etc., et quelquefois on saisit des attitudes ou des mots, on se dit tiens, c'est pas l'église qui l'a entendu ça. Parce que vous savez, ça envahit très vite. Mais bon, nous avons à veiller et nous avons surtout à prier pour cela. Je rappellerai que nos enfants ne sont pas encore convertis, enfin pour certains. Alors il va falloir être très prudent par rapport à ça. Comment leur donner la notion de se tourner vers le Seigneur et de se débarrasser finalement de toutes ces choses? Ben, vous savez, on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que chaque
adolescent est particulier. Et on ne peut pas appliquer des méthodes, hein, d'une façon ce sera comme ça, d'une manière ce sera d'une autre. On a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Oui, parce que c'est très difficile, et je reconnais que c'est vraiment très très difficile. Parce que la pensée en est imprégnée, alors que je parle des adolescents ou des jeunes, mais je parle des chrétiens aussi engagés. Hein. Notre pensée en est imprégnée, l'imagination devient assiégée, la volonté est sans réaction, le raisonnement obnubilé. Cela devient une mentalité. Quand on parle de mentalité, il y a une bonne mentalité et il y a une mauvaise mentalité. Quelquefois on dit une sale mentalité. Tellement les choses sont... Et puis ça devient naturel, on s'en aperçoit plus. Regardez le langage d'aujourd'hui. Oh là là, on entend des choses. Quelquefois, j'ose le dire, je sais pas. Mais quelquefois, il y a des chrétiens qui... C'est vrai. Alors bon, tout ça, il faut se reprendre devant le Seigneur. Alors bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont là au fond du cœur et on s'en aperçoit plus. Je remarquais dernièrement combien les enfants ont une propension naturelle à mentir. Ah ouais? À commencer par ceux que je connais bien. On ne leur a pas appris à mentir. Hein. Mais, et vous savez, qu'un enfant fasse une bêtise, je sors du contexte, hein, qu'un enfant fasse une bêtise, c'est une chose. Mais qu'il mente pour couvrir la bêtise, c'est encore plus grave que la bêtise elle-même. Ouais. Et je crois que nous devons être peut-être sévères par rapport au mensonge. Et il y a des gens qui disent, mais j'ai pas menti. Et ils ne s'aperçoivent même plus qu'ils mentent. C'est terrible. C'est une mentalité, c'est une façon. Et ils disent, mais non, non. C'est un état d'esprit. Et quand la tentation survient, le péché, naturellement, fait suite. Et on trouve cela naturel et normal. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, ayez le mal en horreur. Que Seigneur, tu nous donnes vraiment d'avoir le mal en horreur. Et quelquefois, on ne l'a pas toujours. Moi, je le dis aussi pour moi. Quelquefois, on n'a pas toujours le mal en horreur. S'informer, oui. Mais avec cette restriction, être sûr d'avoir suffisamment d'aplomb spirituel pour trier. Autrement, il vaut mieux fuir. Il vaut mieux fuir, si nous en avons la force. Alors, vouloir tout savoir, tout voir, tout connaître de ce qui se passe dans le monde n'édifie pas. Mais ça s'est vérifié dans le peuple de Dieu à travers les siècles. Ça fait plutôt le contraire, ça démolit, à commencer par la conscience. Et Jésus de nous dire, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et moi j'ajoute qui est dans le monde. Comment ces nations, alors la question qui a été posée dans notre texte, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Est-ce que nous avons besoin de savoir comment d'autres servent leur Seigneur? Enfin leur Seigneur, leur Dieu, excusez-moi, avec un petit dé. Est-ce que nous avons réellement besoin de savoir? Pour la plupart d'entre nous, nous sommes sortis d'une religion. Est-ce que nous avons encore besoin d'y remettre le nez? Nous en connaissons la doctrine, nous en connaissons les déviances. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Moi aussi, dit l'Israélite, je veux faire de même. De l'information à l'imitation. Parce que ça passe à l'imitation. Je veux faire pareil. On peut être très facilement séduit. Et on pensera que ce que l'on ne connaît pas, eh bien parce qu'on ne le connaît pas, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus séduisant, et c'est beaucoup plus enthousiasmant que ce que l'on vit peut-être depuis des années et des années. Mais attention, c'est grave. Parce que là, à ce moment-là, on va tomber dans le conformisme. Un conformisme peut-être religieux ou un conformisme populaire. Il y a Rabelais qui appelait ça le panurgisme. Vous savez les boutons de panurge? Le mimétisme. Faire comme. Parce que quand on ne fait pas comme les autres, eh bien on se sent mal à l'aise. On se sent un petit peu marginal. Eh bien tant pis. Vaut mieux être encore un original. Enfin, original, de toute façon, toute proportion gardée, hein, naturellement. Il y a un exemple pratique qui nous est donné dans la parole de Dieu, je le rappelle, on avait évoqué ce sujet, je pour faire du battage autour de ça, mais c'est quand même une réalité, de la manière dont les gens vivent aujourd'hui par rapport à la notion de l'argent. Écoutez, dans 1 Timothée, il nous est dit ceci au chapitre 6, et vous allez voir hein, qu'on avait pris ce texte d'ailleurs pour le méditer. « Mais ceux qui veulent s'enrichir, il y en a qui ont cette obsession d'avoir de l'argent, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, ce sont des chrétiens. En étant possédés, se sont égarés loin de la vérité, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous ne croyez pas que c'est omniprésent le problème de l'argent, l'idole de l'argent aujourd'hui dans notre monde? ça devient une frénésie. Et est-ce que l'on vit beaucoup plus heureux? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on est plus heureux? On a toujours l'image de son banquier devant nous en disant « Tiens, je lui dois de l'argent. » Et on se demande comment faire les fins de mois. Frères et sœurs, écoutez, on a d'autres préoccupations que de s'inquiéter de ça, puisque le Seigneur nous donnera tout ce que nous avons besoin. C'est pas vrai? Et combien de tourments, hein? Combien de déchirures, et parfois avec des conséquences beaucoup plus graves que nous pouvons supposer. Obsession de ceci, obsession de cela, obsession de la promotion, de la réussite à tout prix. Paul à Timothée parle de naufrage quant à la foi. Parce qu'on a regardé autour de nous et on s'est dit, bah tiens, ça doit être certainement ça. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous bénit pas dans nos affaires, hein, et dans notre gestion financière, c'est pas ça. Mais si véritablement les choses deviennent une priorité, et une priorité sur toute autre chose, alors ça peut devenir vraiment préoccupant. Naufrage. Oui. Comme dans le poème de Victor Hugo, combien de marins et de capitaines qui sont partis au loin et ne sont jamais revenus. Je dirais combien de chrétiens et de fidèles sont partis très loin et ne sont jamais revenus non plus. C'est triste. Il y a encore bien d'autres dieux qui séduisent les croyants. Deuxième point que nous allons voir. Deuxième piège, deuxième guet-apens. Celui des signes et des prodiges. Alors vous allez me dire, mais on fait partie de la Pentecôte, oui. Et moi je bénis le Seigneur qu'il ait donné des signes et des prodiges. Mais attention, on va voir quelque chose de particulier. Ça s'adresse à nos yeux. Tout à l'heure c'était les oreilles, et puis après il nous amène à imiter. Mais là ça s'adresse à nos yeux. Et nos yeux, eh bien, Jésus se trouve un jour confronté avec les Galiléens, et viennent lui dire toutes sortes de choses. Ils le suivaient, ils le talonnaient, on peut dire. Et Jésus leur répliquera à un moment donné, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, je ne croyais pas. » Et aujourd'hui, l'Église est malade. Elle est malade pourquoi? Parce qu'elle voudrait voir les signes et les miracles qui se sont passés il y a 2000 ans, qui se sont passés il y a peut-être 1000 ans ou 1500 ans, ou qui se sont passés encore dans notre dernier siècle et encore aujourd'hui. Et on se dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait plus de miracles et de prodiges. Alors on a un petit peu cette « nous voulons voir des miracles ». Et vous savez ce que Jésus dit à ses disciples? Que le royaume de Dieu ne viendra pas à frapper les regards. Et que finalement, certains désireront voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous savez ce que Jésus répond? Vous ne le verrez pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas encore des miracles, des prodiges et des choses formidables. Mais c'est ce qu'il nous dit dans ce texte qui est intéressant. Ce paragraphe qui va du verset 1 à 5 dans le chapitre 13, ce paragraphe pourrait se résumer par deux avertissements bien connus du Nouveau Testament. D'abord, un avertissement de Jésus quand il dit ceci, prenez, et on l'a lu tout à l'heure, prenez garde que personne ne vous séduise. Deuxième avertissement que nous trouvons maintenant chez Jean, dans son épître, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et ça, c'est important. Savoir s'ils sont de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que l'Église a besoin d'apprendre, c'est de discerner la nature et la finalité des dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y en a 9. Il y a des signes, des miracles, des prophéties, des prophéties, l'interprétation d'un parler en langue, dons de révélation manifestés et qui s'accomplit. Qui s'accomplit, c'est ce que nous avons. Eh bien, même si ça s'accomplit, frères et sœurs, et ça fait partie de l'enseignement nécessaire à tout chrétien, même si ça s'accomplissait, cela ne prouve pas obligatoirement que ladite manifestation spirituelle ait été envoyée par Dieu. Il faut voir, comme on pourrait le dire, et ce n'est pas péjoratif, mais il faut que nous apprenions à voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Parce qu'il est dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et combien d'églises de Pentecôte, églises évangéliques, se sont fourvoyées en recevant comme de l'argent comptant des manifestations sensibles et qui finalement ne venaient pas de Dieu et qui aujourd'hui sont partis dans la dérive des sectes et des fausses doctrines. Forcément. Ce n'est pas à la bonne mine du prophète qu'il faut regarder. ou à sa spiritualité apparente. C'est pas parce que quelqu'un prie bien, ce n'est pas parce que quelqu'un chante bien, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien, ce n'est pas parce que quelqu'un dit ceci, cela, etc., etc., que finalement, eh bien, nous devons juger en disant « Oh, c'est spirituel ». Oui, c'est spirituel, mais de quelle source est ce spirituel-là ? Ce n'est pas le don lui-même qui est mis en cause, c'est le résultat du don. Et le résultat du don, il nous est dit dans notre texte, nous allons le retrouver, c'est le résultat du don qui en est la preuve. Et nous allons relire le verset 3 à 5, quand il est dit ceci, parce que c'est important quand même que nous reprenions ce texte, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allez après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, vous verrez, c'est entre parenthèses, hein, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel. » Ça veut dire quoi ? La question à élucider est la suivante. Ce signe, écoutez bien, frères et sœurs, ce signe ou ce don, même ce conseil que l'on donne comme venant de Dieu, Dieu m'a parlé pour toi. Alors moi j'aime bien ça. Parce que si Dieu veut me parler, si c'est moi l'intéressé, il va me parler en premier. Mais excusez-moi, j'accepte pas le reste. Si ça vient confirmer qu'il y a un frère qui vient de me dire, tu sais, le Seigneur m'a parlé, et que ça vienne confirmer une conviction qui est dans mon cœur, alors oui. Mais si c'est quelque chose que je ne sais pas, alors là moi je me fie. Parce que j'ai vu des choses dans le ministère. Des frères et des sœurs qui sont allés droit dans le mur. Et puis c'est le pasteur qui fait le SAMU après. Non, mais ça vous fait... Non, mais c'est terrible. Alors on n'écoute pas n'importe qui, n'importe comment. Il faut avoir du discernement. Alors je crois que le raisonnement est le suivant. Ce don a-t-il pour objet de nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher du Seigneur ? Conduit-il sans le savoir à entrer en contact avec d'autres dieux, avec une nébuleuse spirituelle, avec d'autres objets d'adoration ou d'autres sujets d'adoration, subtilement nous refaire prendre le chemin du monde à terme désobéir et à pécher? C'est la question que je dois me poser. C'est important. Voilà ce qu'il faut savoir et qu'il faut juger. En ce qui concerne la prophétie, Dieu la donne. Et je le répète, ça doit être essentiel et fondamental dans nos cultes. Et à chaque fois qu'il y a des dons spirituels, écoutez, trois verbes. Et en dehors de ça, parce que la parole ne va pas au-dehors de ça, une prophétie, elle édifie, elle exhorte et elle console. Une prophétie ne démolit pas. Elle peut avoir un message, quelquefois incisif, pour amener les gens à la repentance. Mais pas pour diriger. Ça, la direction, c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, frères et sœurs, on est dans le Nouveau Testament et on a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit nous dit des choses. Autant que nous soyons ouverts à cette parole. Et plus loin, il nous est dit que ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, il ne faut plus qu'il y ait de dons spirituels dans l'Église. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je ne suis pas là pour vous dire maintenant, terminez les dons spirituels. Non, nous prions pour qu'il y ait des dons spirituels. Mais attention, c'est qu'à partir du moment où je donne un don spirituel, eh bien, mes frères qui sont autour de moi sont capables de juger. Pas de nous fusiller après, hein, parce que ça, c'est pas chrétien. Hein. Mais de juger pour savoir la validité, si c'est spirituel ou pas. Afin que tout soit instruit. Vous avez vu le texte ? Instruit, exhorté. Et il nous est dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce qui veut dire que celui qui exerce un don spirituel, c'est pertinemment ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et s'il connaît à l'avance le sujet traité, eh bien, il se disqualifie. Je vais vous expliquer que si dans la semaine, j'ai entendu, parce qu'on sait beaucoup de choses quand on est à ma place, je connais pas tout le monde, hein, je connais pas tout, mais si je sais quelque chose, eh bien, le dimanche matin, je ne vais pas régler mon compte avec des prophéties du haut de l'estrade. Je préfère en rien dire. Je préfère qu'on dise, Alain, il n'est pas prophète. Eh bien, tant pis, je ne suis pas prophète. C'est tout. Et puis, ça ne me fera pas... Hein. Mais si je sais quelque chose et que je dirige ma prophétie en disant, bien, je parlais à ce frère et à cette sœur parce qu'il a besoin d'entendre quelque chose, votre prophétie n'est pas valable devant le Seigneur. Parce que la prophétie, le principe même, c'est une inspiration. Et c'est pas ce que vous avez entendu. Et ça, c'est très, très mauvais. Et vous savez, c'est une pratique qui s'est faite dans les églises. Alors, il faut revenir à la parole, tout simplement. Quelquefois, il y a des règlements de compte. Eh bien, moi, je dis, c'est pas bien de régler ses comptes. Parce que vaut mieux aller voir le frère et la sœur, de lui dire, voilà. Et puis de le faire avec beaucoup de fraternité, beaucoup de correction, beaucoup de respect, de lui dire, voilà, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Alors moi, je voudrais te le dire, mais je ne veux pas me servir de tout l'audit, de toute l'Église pour entendre ce que j'ai à lui dire. J'irai le voir, je lui dirai, voilà, j'ai quelque chose à te dire, mais ce n'est pas la peine de le faire passer par prophétie. Surtout si on sait des choses. Ceux qui exercent les dons spirituels savent qu'un don spirituel, c'est quelque chose de spontané. Quelque chose qui vient. Quelque chose qu'on ne sait pas, mais que l'on va dire de la part de Dieu. C'est l'authenticité, ça. Diriger les autres avec des dons spirituels. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois acheter une maison, tu dois acheter une voiture. D'accord. Mais vous venez avec moi chez le banquier, vous payez la facture. Est-ce que ce n'est pas quelquefois se donner de l'importance en disant « Je suis prophète » dans l'église ? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Parce que il y a quelquefois des inspirations qui sont diaboliques, foncièrement diaboliques. Mais le plus souvent, c'est pas diabolique, c'est humain. C'est charnel. C'est psychique. Sans mépriser les dons spirituels. Et vraiment, nous avons besoin de prier pour que Dieu donne des dons spirituels authentiques. L'Église en a besoin. Il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir marcher à coups de révélations et de signes pour se donner du crédit, de l'importance. Car c'est attribuer une plus grande valeur à nos expériences, c'est-à-dire ce que nous ressentons, qu'au simple enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas que la parole est suffisamment claire pour nous diriger et nous conduire dans la vie ? Est-ce qu'on a besoin certainement quelquefois de lumière ? Moi, j'ai été dans certaines communautés, dans certaines églises. Et ça, c'est dur. C'est toujours les mêmes qui prophétisent. Et tous les dimanches matin, à 10h35, bim, une prophétie. Et puis, comme il y a quelqu'un à côté qui voulait prophétiser aussi, il se renvoie la balle. Non, mais c'est terrible. Oui, oui, c'est terrible. Non, mais on arrête. Non, parce que là, c'est un jeu malsain. Hein. Nous pouvons tous successivement prophétiser, frères et sœurs. Alors moi, j'encourage ceux qui sont quelquefois un peu timides, mais quelquefois, il y a beaucoup d'authenticité dans la timidité. Alors, il faut que nous apprenions tout ça. Ça fait partie des expériences. De toute évidence, cela prouve que les signes et les manifestations surnaturelles, toutes confondues, ne sont pas nécessairement d'essence divine, et sans les critères de réflexion fournis par la parole de Dieu, c'est-à-dire, bien ce que Dieu nous enseigne, beaucoup font fausse route et se trompent, et le plus grave, c'est qu'ils trompent les autres. Ouais. Juger, c'est chercher à se rendre compte de l'effet, en d'autres termes, du résultat de telle ou telle chose. Ce qu'elle produira, écoutez bien, ça c'est les enseignements de Jésus, non pas en œuvre, mais en fruit. Connaissez, dans le sermon sur la montagne, en ce qui concerne les faux prophètes, il est question des œuvres et des fruits. Je le dis, je le répète. Ce qu'elle va produire, tout simplement, en fruit à la gloire de Dieu et sur la vie spirituelle des croyants. À quoi va m'amener ce don spirituel ? C'est la question que je dois me poser. Va-t-il me rapprocher de Dieu ? Va-t-il apaiser ce frère ou cette sœur ou va-t-il le troubler ? Quelquefois, il y a eu des dons spirituels un peu bizarres qui ont démoli la foi des autres. Eh bien, Dieu, c'est pas la démarche de Dieu. Même s'il y a faute, même s'il y a péché, il y a toujours un appel à la repentance pour que la personne se repente, qu'elle se reprenne. Et j'ai vu quelquefois des gens qui se culpabilisaient alors qu'ils n'avaient pas à se culpabiliser parce qu'ils n'avaient rien fait, mais d'une grande sensibilité à ce qui se passait, eh bien, ça les a démolis en disant « Mais moi, je ne remettrai plus les pieds ici. C'est pas possible. » Exhorter, consoler et enseigner. Est-ce que cela va me rapprocher ou m'éloigner de mon église ? Parce que c'est ça. J'ai entendu une prophétie dans une autre église, mais ils sont tellement spirituels, hein, vous savez. Oh, incroyable. Il y a longtemps qu'on n'est plus comme ça, nous, chez nous. Alors, ils ont été voir dans leur église. Je vous l'avais raconté, ça. Il y a quelqu'un qui, un jour, était revenu. C'était un jeune homme qui avait toujours vécu dans l'église. Il avait toujours été, disons, là, au milieu de nous. Il a été voir dans une église, entre guillemets, prétendue, église chrétienne. Quand il est revenu, il est venu le dire à tout le monde. « Ah, vous savez, je suis allé à tel endroit. Eh bien, je me suis aperçu d'une chose. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai jamais vu mon église aussi noire. » Alors, s'il a été là-bas pour voir aussi noire, c'était pas la peine qu'il y aille. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas très belles. Mais, et puis il est parti à la dérive, tout simplement. Parti à la dérive. Parce qu'il avait entendu des choses qui n'étaient pas et qui ne venaient pas du Seigneur. Est-ce que cela va m'attacher, finalement, davantage au Seigneur? Est-ce que ça va unir l'Église ou est-ce que ça va la diviser? C'est la question, parce que ça s'est fait souvent. Est-ce que ça va m'attacher loyalement encore davantage au Seigneur? Ou est-ce que ça va m'entraîner vers je ne sais quel mysticisme, à être zen? Est-ce que ça va m'amener à adorer d'autres dieux? Et Dieu savait qu'en Canaan, les Israélites seraient confrontés avec toutes sortes de tentations subtiles, toutes ayant l'apparence d'une grande dévotion, d'une élévation spirituelle, mais que leur véritable nature cachée était l'adoration et le service de faux dieux, et en arrière-plan adorer des esprits impurs et mensongers, qui téléguidaient des faux prophètes, des faux songeurs et des faux serviteurs. Allons après d'autres dieux et servons-les. Alors le résultat, s'il est là, eh bien il n'est pas spirituel et il ne vient pas du Seigneur. Vous savez que le diable nous a dit qu'il a ses serviteurs, il se déguise en ange de lumière. Il ne prend pas, et on ne prend pas, finalement, des mouches avec du vinaigre. Et là, il faut être perspicace, frères et sœurs, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans la fin des temps, il va y en avoir des gens qui vont venir. Je vais vous dire qu'il va falloir avoir du discernement. Et il y a des choses qui passent actuellement à la télévision. Oh, ça nous fait une publicité, je peux vous dire. Je me dis, mais être évangélique, si c'est ça. Hein. Et je me dis que quand mes concitoyens, mes contemporains, les hommes de notre pays, voient certaines choses, ben, je me dis, on va avoir du travail. Enfin, on va avoir la honte. Hein. Excusez-moi. Quand même pas. L'évangile ne nous permet pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, et de dire n'importe quoi non plus. C'est un crédit, l'évangile. C'est à l'honneur de notre Dieu. Et quand on mélange la politique, l'argent et tout ce que vous voudrez, faut pas non plus exagérer. Et du prosélytisme aussi. C'est terrible. Allons après d'autres dieux et servons-les. Aujourd'hui, l'invitation est plus enveloppée, donc plus difficile à dévoiler. Dans le temps, c'était des idoles qu'on adorait, comme ça en pierre ou des idoles païennes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. C'est dans la pensée maintenant. C'est beaucoup plus psycho. Alors faisons attention. Et en fait, on remarquera la sévérité de la sanction pour de tels agissements. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il nous est dit, le prophète ou le songeur sera mis à mort. Alors, on va pas. Comprenez? Mais, une chose qui est certaine, c'est que c'est très dangereux. Troisième point. Troisième embûche tendue sous les pas des chrétiens. Et vous y attendez pas, mes frères et sœurs. C'est les liens de famille. Versets 6 à 8. Il est dit ceci. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi et loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, parce que quelqu'un va chercher très loin des choses, ça c'est sûr, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. » Et le reste, on pourra le relire. C'est parfois dans les relations de famille et de l'intimité amicale que se cachent les pièges qui rendent les enfants de Dieu captifs et qui les font tomber. Je n'ai pas inventé, hein. C'est la parole de Dieu. La parole la plus claire à ce sujet nous vient de Jésus lui-même quand il nous dit « Si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, son épouse, son mari, etc., etc. Vous connaissez. Plus que moi. Point. Et ailleurs, il est dit ceci, Quand Jésus s'adresse à un homme, viens et suis-moi, et l'autre lui répond, permets d'abord d'aller ensevelir mon père. Ça, c'est le partage du cœur. Et c'est ce que l'on pourrait dire que c'est un guet-apens qu'est le sentimentalisme. Et sentimentalisme n'a rien à voir avec la foi. Sentimentalisme, cœur, il ne faut pas mélanger les choses. Parce que c'est Dieu qui sanctifie nos affections. C'est Dieu qui les sanctifie. Et quelquefois, beaucoup d'enfants de Dieu pensent, parce qu'ils ont des effusions sentimentales, ou toutes sortes de pensées dans leur cœur, qu'ils se disent, eh bien, c'est le Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Et nenni, c'est pas tout à fait ça. Et on trouve beaucoup d'écueils dans ce domaine. Moi, j'ai vu, je le dis, des frères anciens, franchement, tomber à cause de ce genre de choses, dans les liens familiaux. Ah oui. Et ils n'ont pas pu s'en dépêtrer. Parce que soit madame ou monsieur avaient des inspirations, des visions, et puis sont partis complètement dans la nature. Et je crois qu'il faut faire attention. Vous savez, c'est pas moi qu'il faut écouter ce matin, frères et sœurs. Vous m'écoutez parce que je parle. Mais c'est de retenir l'enseignement qui est derrière. Il y a un grand danger pour le peuple de Dieu. La parole la plus claire, donc, nous l'avons citée, c'est le partage du cœur et nos indécisions. Et quand il y a indécision, c'est notre volonté qui est paralysée. Nous ne savons plus de quel côté aller. Si nous devons obéir aux hommes que nous aimons, ou si nous devons obéir au Seigneur qui lui nous aime, et que nous n'aimons peut-être pas comme lui nous aime. On rencontre le problème quand l'enfant de Dieu est seul converti au milieu d'une famille qui ne l'est pas. Quand on s'adresse à vous, on dit « Ah, ton Dieu, ta foi, ton Église, ta Bible. » Vous l'avez jamais entendu ça ? Oh. Et c'est dit avec beaucoup d'affection, mais beaucoup de sarcasme. Et quelquefois, on est un petit peu sensible à tout cela. Et... Les mariages mixtes également. À cause du respect de l'autre que nous devons respecter. Alors, tôt ou tard, ce genre de choses, il y en aura bien qui devra céder. Eh oui. Et celui qui devra céder, eh bien, devra se soumettre. Et les enfants qui naîtront de cette union, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans une situation où ils vont être tiraillés de droite et de gauche? C'est pour ça que la parole nous dit, ne vous mettez pas sous un joug avec des étrangers ou des infidèles. C'est se mettre dans la gueule du loup tout seul. Le plus influent gagnera l'autre partie. Et si nous n'avons pas cet aplomb de dire « Moi, je sers mon Dieu, je continue à rester ferme dans mes convictions », quitte à lui dire « Tu fais ce que tu veux », mais en tous les cas, moi, je ne bougerai pas parce que c'est mon Dieu que je sers. Et mon Dieu passe avant toi. Ça ne veut pas dire avoir des œillères et se fermer les yeux. Ça veut dire être ferme, finalement, dans nos convictions. Il ne faut pas faire la guerre aux autres. Hein. Ce sont aussi les conseils d'amis. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On le sait. Les conseils d'amis entre chrétiens, conseils toujours très avisés, mais pas forcément spirituels, qui enfoncent davantage qu'ils n'aident et plongent dans la confusion à terme. Alors on entend parfois des enfants de Dieu nous dire « Mais le Seigneur m'abandonne !» Il ne répond pas. Ah oui, mais quelquefois on s'est mis soi-même dans une situation, parce qu'il aurait fallu avoir un peu plus de perspicacité et un peu plus de détermination personnelle pour dire, voilà, ce conseil, qu'est-ce qu'il vaut? Il faut peser les choses. Il faut réfléchir et demander dans la prière que Dieu nous donne une juste notion d'appréciation. Et quelquefois, il y a des chrétiens qui se sont peut-être portés à donner des conseils aux autres, mais c'était pas ça. Excusez-moi, c'était pas ça. C'est le sentimentalisme qui nous a fait conduire dans cette situation. Quand on se laisse conduire également, encore un autre sujet, quand on se laisse conduire aveuglément par la fascination, il y a des gens qui nous fascinent, ah, on les admire, ou par crainte, quand on a peur, alors on va faire des choses parce qu'on a peur, mais la crainte n'est pas bonne conseillère. Par quelqu'un que nous aimons comme nous-mêmes, comme le texte le dit, et qui déraille, parce qu'il y en a qui déraillent, ça peut arriver. Alors qu'on a peur de reprendre, de ne pas le blesser, de blesser sa susceptibilité, parce qu'on se dit, tout ce qu'il nous dit, c'est parole d'évangile. Eh bien, tout doit être vérifié, mes frères et sœurs. Et non pas en demandant des conseils de droite et de gauche, mais en se tenant devant Dieu dans la prière, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et vous savez, si on est sincère, si on est droit, le Seigneur va nous répondre. Le Seigneur va nous répondre. Moi, je le crois. Et il nous évitera peut-être justement de nous tromper. Nos faiblesses de cœur et nos faiblesses sentimentales, plus qu'une foi réelle dans le Seigneur et dans ce qu'il dit, et nous avons lu ensemble, allons et suivons d'autres dieux. Eh bien, il faut savoir dire non, tout simplement. Allons et servons d'autres dieux ailleurs ou autrement. Parce que on peut peut-être dire et on peut peut-être l'entendre, parce que l'assemblée dans laquelle je suis, parce que le pasteur qui dirige cette assemblée ne me plaît plus. Je suis désolé. Et il ne dit pas comme moi. Vous me voyez encore deux fois plus désolé. Mais moi, je ne vais pas chercher à dire et à faire ce qui plaît. Je chercherai à faire ce qui vous plaît, c'est vrai, autant que c'est possible. Mais si ça va contre la parole de Dieu et si ça va à l'encontre de la vérité, je dirai rien. C'est tout. Et croyez bien qu'un pasteur, c'est pas un ennemi pour une église. C'est pas quelqu'un qui est là pour regarder de tout côté en disant on va faire marcher tout le monde, c'est pas ça. Enfin, moi, c'est pas mon tempérament. Et je crois que c'est terrible. Alors, Paul dit, mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Vous savez, il faut comprendre que quand il y a des responsabilités, on le fait pour le bien de tous et de chacun. Et on le fait dans un mouvement qui doit être le profit de celui auquel on s'adresse, le meilleur profit spirituel. Alors à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir détournement et danger de perdition d'âme pour lesquels Dieu a donné Jésus-Christ. Ce n'est pas une petite affaire, frères et sœurs. Jésus est mort pour chacun et chacune d'entre nous et il veut qu'aucun ne se perde. Ça coûtait cher à Dieu, hein ? On ne plaisante pas avec ce genre de choses, avec la curiosité et l'imitation. On ne plaisante pas non plus avec le sentimentalisme. Et puis le quatrième point sur lequel je vais terminer, c'est un guet-apens. un guet-apens spirituel tellement fréquent. Et nous allons le découvrir, il n'est pas très difficile à comprendre. C'est à travers le verset 12 et 14. « Si tu entends dire au sujet d'une des villes que t'a donnée pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches. Tu examineras, tu interrogeras avec soin en se posant les questions suivantes. La chose est-elle vraie ? Le fait est-il établi ? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi ? » Alors, autant le premier guet-apens s'adressait aux oreilles et à la curiosité d'entendre, le deuxième, eh bien là, revêtait un caractère tout à fait particulier, le troisième, c'était le cœur, là, c'est la langue. La langue. L'expression parle d'elle-même, « si tu entends dire », et Dieu sait s'il s'en dit des choses. Avec l'avènement du téléphone... Ah, bon, j'arrête. Parce que... On est un petit peu comme les Athéniens. Vous savez, on en a parlé il y a dernièrement, les Athéniens ne passaient leur temps qu'à entendre et à donner des nouvelles. Et quelquefois, il n'y a pas une information dans une église. Je généralise plutôt. Je ne veux pas parler simplement, parce que ça, c'est commun à toutes les églises. Il n'y a pas un fait qui arrive dans une église sans que quelquefois, 10 minutes ou un quart d'heure après... Tout le monde le sait. Allô, tu connais la nouvelle ? Alors, où est le principe ? Tu examineras, tu chercheras à savoir ceci et cela. Et on raconte des choses. Oh là là ! Et après, on se trouve drôlement pris au dépourvu en disant, bah oui, c'est pas ça. Oh. Si tu entends dire... Moi, j'avais pensé qu'avec l'avènement du téléphone sans fil, ça serait coupé. Mais c'est encore pire. C'est que maintenant, on n'a plus besoin d'être chez soi. Vous allez n'importe où dans un supermarché ou tout ça, et ça sonne. Alors, vous avez des gens qui sont en train dans les rayons. C'est formidable le progrès, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? Non, mais il faut être sage, hein, quand on est chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Téléphone. Quelquefois, ma femme me retient. Non, mais on est dérangé dans des moments, mais c'est pas possible. Quand est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, cesseront le bavardage oisif? Vous n'êtes pas vexé contre moi? Je continue. Les commérages de coulisses, tout ce qui court par-ci, par-là, et qui de bouche à oreille et d'oreille à bouche, c'est pas le président des États-Unis, s'en trouve forcément déformé. Et quand j'ai fait les colonies pendant des années, j'ai fait 13 ans de colonies, pas les colonies en Afrique, hein, mais les colonies de vacances avec les enfants, on avait une petite chanson. Vous voulez que je vous la chante? Ah, elle est bien, cette petite chanson. Moi, je l'aimais particulièrement. Tes oreilles tombent-elles, sauras-tu les ramasser et les entortiller? C'était une petite chanson comme ça. Et on chantait aux enfants. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. La démarche élémentaire pour le chrétien digne de ce nom, c'est de s'enquérir de l'exactitude des faits rapportés et au besoin de reprendre fermement et fraternellement celui qui comporte n'importe quoi. Le verset 8 nous dit cette parole, et je la relis à dessein. Quand il est parlé, verset 8, tu ne le couvriras pas, il est dit. Mais le verset, attendez que je retrouve, tu feras des recherches, voilà. Tu examineras, tu interrogeras avec soin, la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Frères et sœurs, il faut que nous soyons sages. Soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à nous modérer dans l'usage de la langue. C'est important. Et je crois qu'on ne peut pas excuser la mauvaise langue dans l'Église. Non. On ne peut pas. Mais si on sait les choses, il faut rectifier. Il faut dire non, je suis désolé mon frère ou ma sœur, mais c'est pas ça. Parce que ça fait trop de mal. Et on comprend le mal que ça peut faire. Alors voici comment celui qui est spirituel doit agir à travers le verset 14 que nous reprenons. Il faut que tu examines. Il faut que tu entendes. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que nous entendons des choses que nous sommes obligatoirement obligés de les rapporter. Et de les colporter. Vous savez, forcément, dans certaines positions, on entend beaucoup de choses. Mais il faut toujours aller voir la partie d'à côté. Comment fonctionnent les tribunaux? Eh bien, on entend celui qui est à charge et celui qui est à décharge. Et il y a un jugement et on essaie de s'y retrouver dans tout ça. Et déjà, c'est pas facile. Mais quelquefois, nous sautons à pieds joints sur une information sans vérifier ce qui s'est passé. Vous savez que ça fait beaucoup de mal. Et nous avons besoin d'examiner. Ça, c'est une règle que nous devrions avoir. Si les choses s'avèrent exactes, la prière pour le coupable s'impose et non la divulgation. Il ne faut pas divulguer les choses. Il y a des proverbes par rapport à ça. Les choses que nous entendons. Soyons sages et prudents, c'est pas pour ça qu'il faut que... Et même quelquefois il y a des choses qui sont graves au milieu de nous. Mais est-ce que nous avons besoin de le colporter? Qu'est-ce que ça nous fait à nous? Ça nous soulage? Surtout quand les choses sont négatives? Quand on entend parler d'une guérison, d'un miracle, quelquefois on vient, on prie, et on n'entend plus parler parce que Dieu a fait quelque chose. Mais quand ce sont des choses négatives, eh bien ça court un peu partout. Et moi je pense que ça c'est un piège, ça fait partie du quatrième piège dont nous parlons. Et à ce moment-là, eh bien si j'apprends des choses, si je dois aller voir la partie adverse, je lui demanderai ce qu'il en est. Mais de toute manière, je garde les choses pour moi et je les partage devant mon Dieu. Et je prie pour que finalement le mal soit étouffé et soit... véritablement extirpé. Et c'est Dieu qui va se servir de tout ça. Lui, il saura faire les choses mieux que moi. Et si elles sont fausses, le censeur doit être censuré dans l'espoir qu'il se repente sincèrement et qu'il soit guéri de la démangeaison de parler à tort et à travers, si besoin, peut-être par un désappointement général. Pourquoi pas? Quelquefois, il y a des choses qui ont couru et après, on s'est aperçu que c'était faux et on a marché dedans. En conclusion, nous dit l'apôtre, si vous savez ces choses, alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne les savez pas. Hein. Et moi, je les sais aussi parce que ça vaut autant pour le pasteur. Moi, quand je prêche, je ne prêche pas pour les autres, je prêche aussi pour moi. On est bien d'accord, et ça, c'est important. Et je ne suis pas là pour faire des remontrances ou la morale. On est là pour apporter ensemble et partager ensemble l'évangile. Et l'apôtre dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais oui, frères et sœurs, on est heureux de les savoir. Parce que le monde les pratique naturellement comme les Cananéens sans le savoir. Enfin, quoi qu'ils ont une conscience quand même. Quand ils déblatèrent sur le compte de leur ceci et cela, ils savent très bien que c'est mal. Mais nous, on en sait plus. Alors, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous ne les pratiquez pas, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien de les savoir. Et on devient même encore plus coupable. Et Jacques ajoute, si quelqu'un croit être religieux, alors ça c'est le terme qu'il emploie, moi je dirais peut-être quelque chose qui est plus adapté à notre contexte, si quelqu'un croit être spirituel, sans tenir sa langue en bride, il se trompe lui-même et sa religion est, dites-moi ce qu'il y a, elle est vaine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien strictement. C'est de la vanité, c'est du vent. Alors, je résume et je termine. Attention à l'information malsaine et à l'imitation de la manière dont fait le monde, tant sur le plan général ou peut-être dans les questions qui appartiennent à la vie de la foi. Attention aux contrefaçons des signes et dons spirituels, en nous souvenant que le diable se déguise en ange de lumière. Il est capable de nous en mettre plein les yeux et de penser que ça vient de Dieu alors que finalement ça ne vient absolument pas de Dieu. Attention à nos affections, attention que nos affections ne l'emportent pas sur notre foi. La priorité c'est le Seigneur et c'est lui qui va sanctifier nos affections. Et dernier point, attention au venin de la langue et comment nous répétons ce que nous avons entendu. Quatre guet-apens, quatre pièges. Quand tu rentreras dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'imiteras pas. Tu feras attention à ce qu'il y a autour de toi. En d'autres termes, tu n'iras pas adorer d'autres dieux. Parce qu'inconsciemment, à partir du moment où perdons pied dans ces quatre domaines, ce n'est plus Dieu que nous servons. Nous servons l'adversaire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide. Que Dieu nous donne sa grâce. Et moi, je vous donne ce message avec humilité. Je tiens à le dire. C'est pour tout le monde, pour moi-même. Et que Dieu nous aide et qu'il nous garde fidèles pour que nous puissions véritablement le glorifier à travers toute notre vie. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que ta parole, Père éternel, nous enseigne des principes, et c'est toujours des principes que tu mets devant nous. Ces principes, ils sont là. Nous les croyons, ou tout simplement, eh bien, nous en doutons. Et le meilleur moyen d'y croire, c'est tout simplement de les pratiquer. Et parce que nous les pratiquerons, tu nous dis que nous serons heureux. Et que si nous refusons de les pratiquer, ou si pour des raisons que nous donnons avec des faux raisonnements, nous ne voulons pas, Seigneur, mettre en pratique, alors à ce moment-là, non seulement nous serons malheureux, mais nous rendrons les autres malheureux. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. En effet, Seigneur, je te demande que tu présides par ton Saint-Esprit, parce que ta parole a été donnée. Mais ta parole donnée comme elle est donnée, ce n'est pas suffisant. Je crois, Seigneur, et je te demande que pour chacun d'entre nous, sans exception, la parole donnée doit être véritablement éclairée par le Saint-Esprit. Pour chacun d'entre nous, parce que l'adaptation à nos cœurs, à nos vies, à notre histoire, à ce que nous sommes, ce que tu entends que nous devenions, eh bien, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut véritablement, Seigneur, nous donner une saine appréciation des choses et qui peut nous donner, Seigneur, une saine compréhension des choses. Alors, Seigneur, aide-nous. C'est vrai, Seigneur, que si tu as prévenu le peuple d'Israël lorsqu'il allait rentrer dans ce terrain miné, piégé, où il y avait toutes sortes de guet-apens, même si les Cananéens n'étaient plus là, une chose qui était certaine, c'est que à partir du moment où nous retournons à certaines choses, nous nous laissons imprégner, nous laissons imbiber, ben forcément, Seigneur, que nous les restituons d'une manière ou d'une autre. Alors, si nous nous approchons de toi et que nous sommes imprégnés de ta grâce, de ton esprit, de ta parole, nous allons restituer, Seigneur, le bien et la gloire de Dieu. Mais si nous nous laissons imprégner par toutes sortes de choses mauvaises et des choses bizarres, alors à ce moment-là, nous allons les restituer, même quelquefois à notre insu, sans que nous nous en apercevions. Peut-être que les autres vont s'en apercevoir. Mais nous-mêmes, Père éternel, nous avons besoin vraiment de te dire ce matin, eh bien, comme l'apôtre Paul le disait, aspirez aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors merci, Seigneur. Ce n'est pas la terre de Canaan, mais c'est un monde qui ressemble et peut-être qui aujourd'hui est peut-être encore pire que ce qu'était Canaan hier. Et nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.